Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors, Rav Lemel, on va préciser tout de suite que c'est très probablement notre dernière émission le vendredi et que donc celle-ci passera le samedi soir pour des raisons évidentes de Shabbat. Bon, c'est les rabbins qui font cette émission, moi je ne suis que le journaliste. Mais ça, c'est une évidence puisque ce soir, Shabbat rentre à 17h03. Et donc, à partir de la semaine prochaine, comme on le fait tous les ans, Kabbalat Shabbat, c'est le nom de notre émission, devient Melave Malka. Et elle est publiée le samedi soir à 19h. Alors, dans l'attente, bah c'est le cas de le dire, excusez-moi ce bon mot, il est tout à fait involontaire. En attendant, on reste sur notre paracha qui est celle de Vaïra. Et pourquoi je dis c'est un bon mot, c'est parce que Avram est devant la tente, la sienne. Il vient de se faire, circoncire et moi depuis tout petit je suis surpris de voir que ce livre qui est une sorte de livre d'encyclopédie incroyable s'arrête des fois à nous expliquer des détails comme celui-ci et qu'est-ce que les gens ont mangé et il était devant la tente et il a des invités. Et donc, avec votre permission, expliquez-nous un peu ce contexte, pourquoi cette rencontre est aussi importante, par exemple, que je ne sais pas moi, l'Arche de Noé, le déluge, alors que c'est juste quelqu'un qui reçoit des invités, et quel est son contexte?
Exact, c'est vrai qu'on sait que dans la Torah, chaque détail est porteur de sens, et qu'il y a bien sûr plusieurs lectures. On va ici donner la lecture que les maîtres du Moussar nous donnent sur ce que l'on croit des détails, mais qui n'en sont absolument pas. Le texte nous dit que donc Dieu apparaît à Avram. D'accord. Donc, point de départ, Vayera el Avashem. Dieu lui apparaît. On nous précise que c'est en effet dans un lieu qui nous renvoie à l'univers dans lequel on lui a fait la Brit Mila, la circoncision. Tout va bien. D'accord. Super. Et puis là, on rentre dans les détails. On est en train de nous dire qu'il fait chaud, d'accord. Et il voit ces fameux trois bédouins, on va dire, au loin. Il court à leur rencontre. Et donc, il y a tout le processus que l'on connaît bien, dans lequel Avram donc, va leur dire qu'il veut absolument les accueillir. Ce qui est très intéressant ici, c'est quoi? C'est que, au fond, la Torah nous dit « Dieu lui apparaît ». Mais ça veut dire quoi que Dieu lui apparaît? Si on réfléchit un instant, Dieu apparaît comment? Sous quelle forme? De quelle manière? Il le voit évidemment que non. Donc il s'agit ici, j'ai envie de dire, d'une forme d'expérience mystique très puissante. C'est-à-dire qu'Avram crée un lien avec le Créateur de l'univers. Comment ça se met en place? De quelle manière? Très sincèrement, je suis incapable de vous le dire parce que c'est quelque chose qui me dépasse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est ici dans un événement très puissant. Avram, Dieu lui apparaît. C'est-à-dire qu'il y a un ressenti, une proximité, voire même un échange entre le Créateur et Avram. Et à ce moment-là, Avram voit où. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous donner une image plus simple. Imaginez un jeune homme, le jour de Kippour, jour le plus saint du judaïsme, au moment de la Neïla, le moment le plus sacré de la fête de Kippour, au côté de la Maravi, devant le mur occidental du temple, la veille de son mariage. Vous avez ici une forme de cocktail dans lequel vous avez à la fois le lieu, l'intensité du moment, et puis aussi ce point de passage incroyable, il va se marier demain, d'accord? Donc, imaginez la puissance, le ressenti, les émotions, la concentration, enfin, des choses très fortes. Et à ce moment-là, eh bien, il voit au loin quelqu'un qui semble chercher une chaise. Ce n'est pas un vieillard, ce n'est pas quelqu'un qui risque de tomber, mais voilà quelqu'un qui est là, qui semble chercher une chaise. Et à ce moment-là, ben, il s'interrompt dans sa prière. il s'interrompt dans sa prière, il arrête. Et puis il va vers cette personne, il dit « cherchez une chaise et ne bougez pas ». Et il commence à aller à droite, à gauche, chercher une chaise pour la lui amener. Alors, il y a quelque chose de fou ici. La première chose, c'est comment as-tu réussi à voir cette personne ? Tu es censé être dans une concentration extraordinaire et on en est sûr. Et pourtant, il la voit. Mais plus que ça, il s'interrompt. Ce n'est pas que la personne vient vers lui et lui dit « S'il te plaît, peux-tu, pouvez-vous me donner une chaise, je me sens mal ?» Non, non, pas du tout. Il voit juste et puis il comprend en voyant la personne qui est en face de lui que sans doute cette personne a besoin de quelque chose et donc il va vers lui et lui propose. Alors on va aller plus loin. À ce moment-là, il n'est pas juste au cotel, il est en train d'échanger quelques mots avec le Gadol Hador, le maître de la génération. Alors suivant les univers qui sont les vôtres, ça peut être le Rabbi Lubavitch, ça peut être Rabbi Ovadia Yosef, ce que vous voulez. Et à un moment, il voit cette personne au loin, lui dit Rave, bougez pas un instant, attendez-moi, j'ai quelque chose à faire. Mais je reviens, mais vous m'attendez, hein, vous m'attendez. Waouh. C'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est exactement ce qu'Avraham fait. Avraham est dans un moment incroyablement puissant et il se tourne vers Dieu et dit Imna matzati chen benecha, si ça ne te dérange pas, al nat avant melavdecha, attends-moi, attends, attends. J'ai quelque chose à faire. Et il court vers ses bédouins pour les accueillir. Et les maîtres du Mossar nous disent qu'au fond, on a ici une leçon formidable. La Torah est en train de nous dire que ce qui révèle que notre rapport au divin est authentique, c'est qu'il ne nous empêche pas de voir l'autre, qu'il n'est pas un lieu dans lequel on s'enferme et qui nous empêche de voir l'autre et d'être force de proposition. Et quelque part, Dieu attend Abraham. Dieu est là en train de dire, mais au fond, ce qui prouve que l'attachement, que le lien, tout ça sont profondément vrais et authentiques, c'est que tu as compris au fond quelle est ta mission dans le monde. Ta mission, c'est d'être capable de voir celles et ceux qui sont autour de toi, de te tourner vers eux et de ne pas prétexter l'expérience spirituelle intense que tu vis pour te débarrasser de la responsabilité que va créer la présence de l'autre à tes côtés. Alors bien sûr, on ne va pas nous demander de transgresser ce que la Torah nous dit, mais de mettre de côté quelque chose, parce qu'il y a à ce moment-là celui qui est à l'image de Dieu, qui est à côté. Et ça, c'est une leçon absolument incroyable qu'Abraham est en train de nous donner. Donc ces détails, oui, Abraham est à la porte de sa tente, il fait chaud, il est à l'extérieur, il est en conversation avec Dieu. Il est dans un moment incroyable, puissant. Enfin, il est dans ce lien. Enfin, il est dans cette puissance. Non seulement il est capable de voir au loin les autres, ça veut dire que le regard reste, mais il a compris qu'en vérité, on peut demander à ce moment-là à Dieu, un instant, j'ai quelque chose au fond qui va prouver que j'ai compris quel est ton message. Et c'est ça au fond, ce qu'Abraham nous lègue, c'est ce qu'il nous transmet, c'est ce que nous devons essayer de faire exister de manière ultra concrète dans notre réalité quotidienne.
Rav Lemel, ça aussi, c'est vraiment une question que tout le monde s'est posée. Comment on peut dire à Dieu? Parce que là, vous donniez l'exemple. On imagine, moi, je parle avec le Rabbi de Lubavitch, je dis, ben, je peux pas arrêter, quoi. Ou alors, si j'ai décidé que je le reverrai plus. Rav Lemel, je vous remercie. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain, avec votre permission. Bien sûr, c'est des émissions que vous enregistrez, vous, les rabbins. Et on se retrouvera donc samedi soir, de la semaine prochaine, à 19h. Rav Lemel, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Oui, mon cher Bernard, Shalom Aleichem, Shabbat Shalom.
Rav Mordechai, vous voulez ce soir nous parler d'une question que tout le monde se pose en ce moment, dans une période tellement perturbée, tellement difficile. Vous voulez nous parler de la venue du Mashiach. Alors là, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui va vous écouter avec beaucoup d'attention.
On va parler du Mashiach, on va parler du Messie, on en parle tout le temps, on prie trois fois par jour pour le Mashiach. On accuse souvent les gens d'être des messianistes et on ajoute derrière suprémacistes, etc. C'est chose qu'on entend chez de certaines personnalités politiques en Israël. Mais on va parler aujourd'hui de quelque chose de beaucoup plus essentiel et ça va, je pense, nous permettre de remettre les pieds sur terre, bien qu'il s'agisse du Mashiach et du Messie, qui est une notion extrêmement élevé, qui est le projet messianique, qui est un projet grandiose, c'est un projet de rédemption spirituelle pour toute l'humanité. On va parler de choses très concrètes. Comment ça s'est passé? La naissance du Mashiach. La naissance du Mashiach. Lot, après la destruction de Sodome et Gomorre, de Sodome et Gomorre, se retrouve dans une grotte avec ses deux filles. Là, les deux filles sont persuadées que le monde a été détruit. Et elles disent, il faut qu'on s'unisse à notre père, c'est le seul homme qui existe au monde. Et avec lui, on va reconstruire le monde. Elles pensaient qu'elles avaient vécu finalement la même chose qu'à l'époque du déluge. Elles vont avec leur père. Et la plus grande va appeler son fils Moab. Il vient de mon père. C'est une chutzpa, Rachid nous dit, une insolence absolument incroyable. La deuxième, Ammon. Et de ces deux peuples, Moab et Ammon, vont sortir notamment Ruth. Ruth, qui est l'ancêtre de David Ameler. Mais dans le peuple juif lui-même, on va le voir dans la parasha de Vayeshev, dans quelques semaines, on verra là-bas que Yehuda s'unit avec Tamar dans des conditions qui, entre guillemets, pourraient déshonorer l'homme le plus honorable de notre époque. Et l'Agmara nous dit que tout celui qui pense que Yehuda a fauté se trompe. Et c'est la même chose pour David Amelech avec Bathsheba. Il y a donc ici, dans le récit biblique lui-même, dans le récit de la Torah lui-même, sur l'origine du Mashiach, un trouble, entre guillemets. Et il y a ça, plusieurs raisons, mais une des raisons est très bien expliquée par Rav Moshe Shapira dans ses cours sur la paracha. Il dit qu'en fait, David, on l'a trouvé à Sodome. Le roi David, Matsati David, je l'ai trouvé à Sodome. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome? Lot était amoureux de son argent, de son kavod, de ses honneurs. Et il était prêt pour ça, au plus grand déshonneur, qui est d'être juge à la basse-cour d'injustice de Sodome et Gomorre. Voilà à quoi il était prêt, à se mettre avec des gens qui sont prêts à violer des touristes, qui sont prêts à assassiner des gens pour leur prendre leur argent. Enfin bref, des gens horribles. C'est horrible que donc leur ville va être détruite. Et lorsque les anges, c'est le récit de la paracha, viennent le chercher, ils doivent le tirer par la main pour le faire sortir. Et ça se passe à Pessah. Ça se passe à Pessah puisqu'il leur a préparé des matzot. Pessah, c'est une fête très particulière parce que c'est une fête qui est la fête du retournement, où tout se retourne pour aller vers la liberté. Effectivement, c'est ce qui va se passer pour Lot. Lot se retourne complètement à ce moment-là. Il abandonne sa passion de l'argent et sa passion des honneurs pour se sauver. Et il s'en va. Et s'ensuit l'épisode donc, où il s'unit avec ses deux filles. Pour la première, il ne le savait pas, mais pour la deuxième, nous dit Rachid, il le savait. Pourquoi est-ce que le Mashiach doit venir de ce fait-là? Parce que ce fait-là est un fait de retournement. C'est un moment où un homme qui est pris par sa passion de l'argent et de la chair est un homme qui se retourne, qui s'enfuit de l'argent, d'accord, et qui se retrouve dans une grotte. Et à son insu, le Mashiach va se construire. Pourquoi? Parce que le Mashiach, c'est un roi qui va retourner toute l'humanité. Il doit avoir cette force-là. Il doit contenir en lui l'ensemble des expériences universelles de retournement, en quelque sorte. Et c'est ce qui se passe ici avec ce qu'il nous a raconté avec Lot et avec ses deux filles. C'est qu'en fait, quand il sort de Sodome et Gomorrhe, il se retourne complètement, il abandonne sa passion de l'argent. Et ensuite, c'est un homme qui est complètement entre les mains de Dieu, en quelque sorte. Et Hachem va instiller dans l'origine même du Mashiach quelque chose qui est de l'ordre du retournement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, concernant maintenant la venue au monde du Mashiach avec Moab et Adon, etc. On voit bien qu'en vérité, on ne comprend rien à ce sujet-là. On n'est pas capable de comprendre pourquoi, finalement, au fond, Dieu va utiliser un tel procédé pour faire advenir le Mashiach. C'est absolument, absolument incompréhensible. Ça vient nous enseigner une chose. C'est que le processus du Mashiach, la venue du Mashiach, la préparation elle-même de la venue du Mashiach, bien qu'on ait des prophéties qui nous indiquent un certain nombre de faits, gestes, etc., et que ces prophéties soient réalisées pour une grande partie, en vérité, comme le dit le Rambam, notre du Mashiach, tant que ça ne s'est pas produit, on ne sait pas comment ça se produira. Et en fait, on ne peut rien dire de vrai, de juste et d'exact, parce qu'en fait, au fond, même dès le départ, on n'est absolument pas en position de dire quoi que ce soit de rationnel, en vérité, sur la venue du Mashiach. C'est qu'il faut comprendre qu'en un mot, la venue du Mashiach, c'est quelque chose qui touche à l'irrationnel. On prie pour le Mashiach, on veut le dévoilement messianique, on sait ce qu'on attend, une rédemption pour toute l'humanité. Mais la manière dont ça se fait, la manière dont ça se prépare, la manière dont ça s'élabore, et finalement les détails du scénario final telles que nos prophéties les racontent, en vérité, sont des choses qui nous échappent. Alors pourquoi tout ça? C'est pour nous inviter à l'humilité. Il y a tout au long de l'histoire du peuple juif des gens qui ont prétendu apporter une solution messianique au peuple juif. Il y a eu toutes sortes de faux messianismes, depuis Bar Korba jusqu'au sionisme politique, qui est une forme de faux messianisme. On a fait croire aux juifs qu'ils allaient échapper complètement à l'antisémitisme et autres, etc., et que tout irait bien. Et il y a eu Chabtaïtzvi au milieu, et toutes sortes de gens qui nous ont proposé des fausses solutions messianiques. D'accord ? Et même encore aujourd'hui, on entend souvent, au nom des textes, des tentatives de donner des dates, des scénarios et autres, etc., alors qu'en fait, au fond, on est privé de dates, de discernement sur ce sujet. C'est pour nous inviter à ce qui, finalement, va nous préparer à l'avenue du Machiar, et finalement, ce qui permet l'avenue du Machiar. Qu'est-ce qui permet la venue du Machiar ? C'est l'humilité absolue. C'est l'effacement devant la volonté divine. C'est l'annulation devant la volonté divine. C'est la émouna, la foi, qui est d'abord une forme d'annulation devant la volonté divine. Prenons acte d'abord du fait qu'on n'y comprend rien. Dans la manière dont ça s'est fait, dans la manière dont c'est véhiculé, en fait, au fond, on n'y comprend rien, de rien, de rien, de chez de rien. Et ça, il faut l'admettre. Et ça invite à l'humilité. Cette humilité, elle nous permet de nous placer face à Dieu en regardant d'en bas. Et en disant, c'est toi le maître de l'histoire, et c'est toi qui conduis l'histoire. Et donc nous, on prie pour que tu nous amènes vers ce dénouement. Et cette position-là, cette verticalité qui part de l'humain, qui est humble et effacé face à Hachem, qui lève les yeux, qui lève les mains vers Hachem, lui disant, amène-nous la délivrance finale, eh bien, c'est la marque de fabrique, finalement, du processus messianique. C'est ça qui va amener le Machiav. À chaque fois qu'il y a des faux messianismes qui se lèvent, ou des gens qui tentent d'expliquer des dates, des faits, autres, etc., et qui veulent absolument faire des parallèles qui sont souvent hasardeux, on est souvent dans l'erreur. Soyons dans l'humilité, soyons dans la émouna, dans la foi, dans l'annulation devant Hachem, prions Hachem que tout cela puisse se faire donc le plus rapidement de nos jours, comme on le prie 3 fois par jour. Voilà.
Rav Mordechai Bitton, merci. Shabbat Shalom et rendez-vous donc la semaine prochaine, samedi soir. Parce que pour les raisons des horaires de Shabbat, on passe le samedi. Bonsoir à vous.
Shabbat Shalom, bon courage.
Et Rav Gay est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gay, alors vous voulez revenir sur cette chose incroyable. Abraham dit, est en conversation avec Dieu. Alors, sous une forme, évidemment, comme nos patriarches, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie exactement, mais il est en pleine conversation avec Dieu, ce qui est déjà ce qui est unique. Et il lui dit, attends, je reviens. Qui oserait faire ça? Et pourquoi Abraham le fait, et pourquoi c'est un non-événement? Pourquoi c'est compris par nos sages comme un sujet de réflexion? D'ailleurs, on va entendre ce que vous avez à en dire, mais c'est normal. C'est normal. Attends, Dieu, je reviens. Donc, Rav Gay, expliquez-nous ce que vous en avez tiré comme enseignement.
Alors, il faudrait d'abord que je dise que ce n'est pas de moi, c'est de Rav Olbe que j'ai entendu, il y a maintenant quelques années. M'a expliqué la façon suivante. En fait, la Gemara dit Gdola Hachnasat Ochrim, Yoter Mikabalat Pene Shechina, recevoir des invités, c'est plus important que recevoir la Shechina, la présence divine. Donc ici, Hachem, Akadosh Baruch Hu, vient rendre visite à Abraham parce qu'il est souffrant. Il a fait la Brit Mila, c'est le troisième jour. Il est souffrant, donc il fait ce qu'on appelle la mitzvah de Bikur Cholim, de visiter un malade. Lorsque Abraham aperçoit trois personnes qui ont l'air d'attendre et d'être dans une situation un petit peu de précarité parce qu'il fait chaud et qu'on est dans le désert, il dit à Dieu, s'il te plaît, j'ai quelque chose à faire. Je dois recevoir des invités. Alors, ça veut dire que on a du mal à comprendre comment est-ce que quelque chose peut-il être prioritaire par rapport à une visite de la Shekhina, de la présence divine qui s'adresse à nous. C'est un manque total de respect. Et pour répondre à cette question, je voudrais donner une métaphore pour pouvoir bien comprendre ce que le Rav Olbe nous a expliqué. Imaginez-vous que vous avez décidé de prendre un de vos enfants, vous avez plusieurs enfants, et avec votre épouse, vous allez passer un restaurant avec un des enfants. C'est un moment privilégié, l'enfant se sent valorisé, d'ailleurs c'est une bonne... un bon message à donner à tout le monde, c'est bien de prendre un enfant et lui donner du temps que pour lui. Et à ce moment-là, au moment du pendant le restaurant, il y a un enfant, l'enfant se lève à un moment et il court dans la rue sans prévenir, sans explication. Et vous découvrez que votre enfant est en train d'aider une vieille dame à traverser la rue parce qu'elle a des charges très lourdes, elle a fait des courses et c'est très long. Comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez vous fâcher contre votre enfant? Jamais de la vie. Non seulement vous n'allez pas vous fâcher, mais vous allez vous dire « je suis fier de lui ». Et vous allez vous sentir encore plus proche de lui et plus fier de lui que si vous étiez en train de continuer cette conversation intéressante que vous aviez avec lui avant. C'est-à-dire que lorsque votre enfant fait ce que vous vouliez qu'il fasse, vous sentez encore plus proche de lui que si vous lui parlez. Alors ça c'est vrai avec vos enfants, mais imaginons Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est infini. Nous sommes des êtres limités. Lorsque Hachem nous parle, finalement c'est compliqué de cet échange entre un être infini et un être si limité que nous. Donc finalement, cet échange, c'est pour le monde futur, pour après 120 ans. Sur Terre, Hachem dit, je veux que vous fassiez ce que moi je fasse. L'Arta Bidracha, suis mes chemins. Si tu fais ce que moi j'aime qu'on fasse, tu es beaucoup plus proche de moi, tu te rapproches beaucoup plus de moi que si tu me parles. Je suis venu te parler, tu es parti recevoir ces invités, ça me fait plaisir, je suis fier de toi parce que finalement, tu fais ce pourquoi je t'ai créé, c'est-à-dire suivre mon exemple. Or, justement, qu'est-ce que fait Dieu? Il montre l'exemple de Bikur Cholim, visiter un malade, s'occuper d'Abraham, qui est un être de chair et de sang, de venir lui rendre visite. Eh bien, Abraham réagit en disant, Dieu rend visite, Dieu s'occupe des êtres de chair et de sang. Moi, je vais m'occuper de ces trois personnes, je vais les recevoir évidemment parfaitement, comme il sait bien le faire Abraham. Et en faisant cela, la Shekhina, la présence divine, l'attend. Elle ne trouve absolument pas irrespectueux de l'attente parce que tout simplement elle est fière d'Abraham. C'est-à-dire que dans ce monde, se rapprocher de Dieu, c'est pas lui parler, c'est plus encore d'agir en fonction de ses, faire les mitzvot, d'agir ce que Dieu attend de nous, d'être généreux, d'être dans l'intention des autres. Ça, c'est beaucoup plus important et ça nous rapproche aussi plus de Dieu que de lui parler. Il y a des gens qui pensent que la seule façon de parler à Dieu, c'est de faire la prière. C'est de prier, d'adresser ses demandes. Être proche de Dieu, c'est de faire ce que Dieu y fait. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit des invités, il s'occupe de chacun d'entre nous. Et il a créé un monde pour justement révéler sa dimension du chesed, de la générosité. Abraham le fait parfaitement. Dieu le met en valeur et lui dit, voilà, toi Abraham, je t'aime, je t'apprécie. Yedative, je sais, je t'apprécie parce que justement, non seulement tu es un exemple de vie, pas seulement un grand personnage parce que tu comprends et tu connais des choses, mais parce que tu sais les mettre en pratique, et tout le monde le reconnaît d'ailleurs aujourd'hui. Abraham, c'est le père de toutes les nations du monde. Abraham Goïm, c'est celui qui est le père des nations et qui nous a donné tout simplement beaucoup de valeur, et nous en sommes fiers d'être ses enfants. Et nous comprendrons, nous aussi, que dans l'agissement que Dieu veut qu'on nous... la façon dont Dieu veut que nous agissions, nous nous rapprochons de lui, nous sommes encore plus proches de lui. Un petit message que je voulais passer avant ce Shabbat. Je vous souhaite de recevoir beaucoup d'invités ce Shabbat, Amen, ou d'autres Shabbatot, et ainsi vous rapprocher d'Hachem encore un peu plus en agissant comme lui, il aime qu'on agisse.
Et on souhaite aussi à nos auditeurs, Rav Gay, sous votre bénédiction, que la Shrina soit là, parce que, avec notamment les bougies, cette bracha apporte une présence divine dans la maison. Je parle sous votre contrôle et espérons qu'on saura l'accueillir. Rav Gay, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que l'émission la semaine prochaine ne sera pas un vendredi soir, mais samedi, puisque Shabbat rentre très tôt. Cette semaine, 17h03, la semaine prochaine, on sera carrément dans les choux. Shabbat shalom à vous, Rav Gay. Et à la semaine prochaine, à samedi. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Donc, allumage des bougies, 17h03. Excellente soirée à tous et Shabbat Shalom, la semaine prochaine, samedi.
Shalom loy boy na boy, im Hashem lo yishmari yi, shalom shokat shoy meh.